posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Aujourd'hui, nous allons parler du transport routier. Comment mettre fin au dumping? Parce que cette question du transport routier, elle nourrit pas mal le populisme. On a un peu l'impression aujourd'hui en Europe que c'est la loi de la jungle entre l'Est d'un côté, l'Ouest de l'autre. C'est vrai que rien que ce chiffre, 3300 euros, ça, c'est le revenu maximum d'un routier ici, à l'ouest de l'Europe, contre 300 euros pour un routier à l'est de l'Europe. C'est un rapport de 1 à 11. Du coup, il y a eu, sur une initiative française, 9 pays européens qui se sont mobilisés il y a quelques jours contre cette concurrence déloyale. Et ce sont les ministres des Transports allemands, autrichiens, belges, danois, italiens, luxembourgeois et suédois, et puis également un norvégien, un extra-communautaire qui se sont alliés aux Français pour signer l'Alliance du routier. Bonjour Christine Revaud-Dallonne, bonne foi.
Bonjour.
Vous êtes chef de file des eurodéputés socialistes français ici au Parlement européen. En gros, est-ce que c'est l'Est contre l'Ouest ce dossier?
C'est plus compliqué que ça, parce que c'est l'Ouest mais sans le Sud.
D'accord.
En réalité, la situation est liée au niveau de salaire des chauffeurs routiers dans leur pays. Et on a des positionnements différents selon les pays. C'est vrai pour les pays de l'Est, mais aussi on a les mêmes discussions et les mêmes difficultés à dialoguer avec nos partenaires espagnols, notamment chez qui il y a beaucoup de chauffeurs routiers et qui considèrent que ce sont une attaque, une concurrence déloyale, les niveaux de salaire que nous avons.
Voilà, la concurrence déloyale, on va revenir également sur les cas de fraude. Il y a ce qui est légal, il y a ce qui est illégal. C'est assez intéressant. Alors, il y a la question des tachygraphes truqués, mais il y a des contournements, des règles à travers les camionnettes et autres. On va revenir dessus. Comment faire pour mettre fin à ce dumping? Également avec nous aujourd'hui, Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman. Bonjour Charles.
Bonjour.
Jean-Sébastien Lefebvre de Contex.
Bonjour.
Bonjour Jean-Sébastien et Emmanuel Foulon, conseiller politique belge auprès des socialistes. Transport routier, comment mettre fin au dumping? Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag 500ME. Alors, selon une étude du Comité national routier, si on inclut toutes les charges, le coût complet à l'année d'un conducteur routier à l'international s'échelonne de 16 000 euros pour un transporteur bulgare à 56 000 euros pour un transporteur belge. Tiens, belge, Emmanuel Foulon, il y a un problème.
Oui, il y a un problème, mais comme vous l'avez dit en début d'émission, on a une série de pays qui s'est levé contre ça, contre finalement de la concurrence déloyale, mais il faut savoir surtout que c'est aussi à l'initiative de ce qui s'est passé, parce que la Pologne, avec 10 autres pays, a demandé de remettre en question le salaire minimum prévu, entre autres pour les routiers en Allemagne et en France, parce qu'ils estiment, et la Commission compris, que c'est de la concurrence, que c'est justement briser ce marché unique, briser cette libre circulation des travailleurs et cette libre possibilité de faire de travailler des gens de droite et de gauche, du nord et du sud de l'Europe. Et ça, c'est totalement inadmissible, évidemment, parce que ça crée un problème, parce que finalement, qu'est-ce qui est la victime de tout ça? Eh bien, c'est le droit social et c'est le travailleur.
Jean-Sébastien Lefebvre, c'est intéressant ce que vient de dire Emmanuel Foulon. Les Allemands d'abord, puis les Français, pour tenter d'endiguer ce phénomène et ce problème et de lutter contre ce dumping, ils ont dit d'accord, mais tous les transporteurs routiers qui passent par chez nous, ils doivent être payés au SMIC. Ça, c'est ce qu'on dit les Allemands et les Français.
Au salaire minimum du pays que vous traversez. C'est-à-dire, vous traversez l'Allemagne, vous êtes payé au salaire minimum allemand, vous traversez la France, vous êtes au salaire minimum français. Vous repassez en Espagne, hop, la fin de l'obligation. Mais ce qui fait que c'est censé justement contrebalancer le fait que venant de Pologne, ils sont payés moins
cher. Ça, c'était quoi? C'était unilatéral?
C'était unilatéral.
D'accord.
En France, dans la loi Macron, s'était mis dans tout le reste. Et ce qui fait que ça a provoqué une réaction de la Commission qui s'est dit « Ah, c'est peut-être pas légal, etc. » En fait, la Commission considère que c'est un alourdissement trop important du fardeau administratif des entreprises au sein du marché unique. Puisqu'en fait, c'est deux visions qui s'opposent. C'est-à-dire, les pays de l'Est, eux, vont défendre la liberté de livrer des marchandises partout en Europe, donc le marché unique.
Donc les Polonais... qui était vent debout avec 10 autres pays, voilà. Qui étaient vent debout contre cette disposition allemande et française. La Commission européenne a été saisie et a dit effectivement...
Elle dit, voilà, il y a un problème. Et les autres disent, mais en même temps, si on ne fait pas ça, on va se retrouver sans secteur de transport routier dans nos pays parce qu'il est strictement impossible de concurrencer, comme vous l'avez dit, entre 16 000 et 50 000 euros par an pour un conducteur.
La Commission, elle dit exactement, l'application du salaire minimum ne saurait être justifiée en ce qu'elle crée des obstacles administratifs disproportionnés au bon fonctionnement du marché intérieur.
C'est ça. Charles de Marcier.
On voit bien que les États, en fait, veulent se protéger parce qu'il y a des abus. Ouais. Et donc, cette situation où vous aviez quand même des anciens pays, les vieux pays...
Là, jusqu'ici, on ne parle pas forcément d'abus. Ce sont pas des abus.
Pas forcément d'abus, mais le système, en fait, montre ses limites. Et quand on a voulu apporter des révisions, vous avez justement des pays qui bloquent. Et vous avez des pays individuellement, la France et l'Allemagne, qui essaient de mettre une sorte de pare-feu, qui sont évidemment identifiés comme anti-droit européen, ou anti-esprit, en tout cas, du droit européen. Mais ça risque de se multiplier si on ne réussit pas à trouver, finalement, un socle d'harmonisation commun, y compris avec cette différenciation de salaire minimum.
Christine Revaud-Allonne, bonne foi. Les routiers sont sympas, mais pas les routiers de l'Est ?
Tous les routiers sont sympas. Le problème, c'est
qu'est-ce
que
qui est pas sympa ?
On considère toujours que dans la hiérarchie des choses importantes, la compétitivité, la circulation des marchandises, c'est très important. Mais avancer vers une harmonisation des droits sociaux et des salaires n'est absolument pas possible parce que ce serait contre-productif anti-européen. Ouais. C'est quand même incroyable d'entendre ça. D'autant plus que la disposition qui est dans la loi Macron, c'était une transposition de la directive des travailleurs détachés. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti comme ça. Mmh. Et c'est parfaitement régulier. Et d'ailleurs, si on entend la commissaire à l'emploi, elle n'a pas la même analyse que la commissaire au transport, Madame Bouls. Donc il y a un vrai problème d'interprétation et il y a encore une fois un problème de ce qu'on veut donner avoir de l'Europe et ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Est-ce que c'est simplement une circulation de ces marchandises ou c'est aussi une protection de ces citoyens et donc aussi de ces transporteurs, ces travailleurs. Et les transporteurs routiers qui se trouvent dans les pays de l'Est, je pense qu'il y a un certain nombre d'ailleurs, ils le demandent souvent, ils demandent, s'il vous plaît, aidez-nous, on a besoin de se reposer, on ne peut pas faire les temps de trajet qui nous sont demandés sans repos, etc. Toutes les conditions de travail, ils les dénoncent.
Le temps de conduite annuel pour un chauffeur routier est de 1540 heures en France contre 2025 heures en Lituanie.
Voilà.
Donc vous êtes en train de dire que même eux, les chauffeurs routiers lituaniens, lettons, estoniens, bulgares, sont en demande de législation au niveau européen pour être protégés.
Absolument. Et quand vous écoutez les syndicats, parce qu'il est aussi intéressant d'écouter les syndicats dans ce secteur-là,
qui sont très actifs. Donc ce n'est pas l'affreux plombier polonais ou l'affreux chauffeur routier de l'Est qui vient faire du dumping. Eux, au contraire, ils sont...
D'accord. Il faut... Alors, on voit bien, et vous le disiez au départ, l'écart de salaire entre le salaire minimum en Roumanie, qui est aujourd'hui en dessous de 300 euros par mois, et le salaire minimum maximal, je ne sais pas.
Luxembourg, c'est 1800 euros.
Ouais, l'écart est énorme et on ne peut pas parvenir tout de suite à une harmonisation. En tout cas, on ne peut pas y arriver par une harmonisation par le bas, il en est hors de question. Mais ça va prendre du temps. En tout cas, il faut qu'il y ait des règles et il ne faut pas considérer que ce sont les pays qui appliquent les règles de la directive des travailleurs détachés qui doivent être mis au banc des accusés.
Jean-Sébastien Lefebvre, c'est quand même 600 000 emplois en France, le transport routier de marchandises. 40 000 entreprises.
C'est ça. Et du coup, pour les protéger, ce que dit la France dans la lettre avec les autres pays, c'est pas uniquement on veut que le système change l'autre, c'est on va renforcer les contrôles. C'est en gros, ces pays-là disent, bon, maintenant, on va vraiment essayer de vérifier encore plus tout ce qui se passe, tous les camions, etc. Et si, justement, les chauffeurs des pays de l'Est respectent les temps de repos, etc. Parce que comme ils ont les obligations d'arriver à tel point, à tel moment, ils sont beaucoup plus mis sous pression que les conducteurs de l'Ouest, les Français ou les Allemands. Et donc, du coup, c'est ça, c'est on va renforcer les contrôles, mais c'est un peu la même problématique que les travailleurs détachés. Il y a normalement un socle protecteur minimum, mais même ça, finalement, c'est pas vraiment respecté, puisque une fois qu'un travailleur détaché ou un camionneur est envoyé à l'Ouest, finalement, il subit des cadences qu'il ne devrait pas avoir à subir. Donc il devient encore plus compétitif puisque finalement...
Donc c'est le Parlement européen et ensuite cette alliance des ministres des transports de 9 pays européens qui ont proposé la création d'une agence européenne de contrôle dans le transport routier de marchandises en 2015. Sur plus de 100 000 véhicules contrôlés en France, près de la moitié des infractions concernaient le non-respect de la réglementation sociale européenne, comme donc le temps de conduite et le repos des conducteurs. C'est ça le problème, Charles de Marseille ?
Le contrôle, la oui. En tout cas, un modèle législatif constant, oui, ça va être l'application, le contrôle, le suivi, ouais. Et puis pouvoir sanctionner le cas échéant. Maintenant, j'ai toujours un peu des doutes avec des agences européennes, si on met 50 personnes qui doivent contrôler sur l'ensemble du territoire européen, partout.
Depuis leur bureau.
Depuis leur bureau, d'y aller trois fois dans l'année pour vérifier, ça paraît toujours assez complexe. Sur la directive travailleurs détachés, il y a une dérogation de pouvoir au niveau national, et donc c'est chaque État qui doit mettre en application les différentes règles et s'assurer du contrôle, avec des gens qui vont, des inspecteurs du travail, et qui vont surveiller. Si l'inspecteur du travail, à partir du vendredi 16h, il peut pas aller sur les chantiers, par exemple, du bâtiment le dimanche après-midi, c'est un peu cuit. Et donc, sur les transporteurs, j'ai un peu le sentiment que si on a une agence, ce risque de contrôle, juste au niveau européen, ne sera pas suffisant.
Quand on voit sur les parkings, alors je n'arpente pas, je passe pas ma vie sur les parkings routiers,
mais
quand on voit que des conducteurs passent tout le week-end dans la cabine de leur camion. Pourquoi en fait ? C'est par rapport au tachygraphe, c'est une question de repos, c'est un contournement de la règle.
On a eu le cas le week-end passé. Hein, le week-end passé, il y a eu un contrôle à la frontière luxembourgeoise où on a contrôlé 110 camions. Et sur les 110 camions, enfin les 110 chauffeurs, 75% d'entre eux étaient dans l'illégalité à cause des temps de repos. Et donc tous ces gens appartenaient à peu près tous d'ailleurs aux mêmes entreprises, ont expliqué qu'ils avaient pris leur temps de repos. Mais il faut savoir que ce temps de repos est interdit à prendre dans la cabine. Donc ils aller dormir dans un endroit où il y a un lit. Et c'est ça qui pose problème. Et donc, effectivement, 75% des gens étaient dans l'illégalité. Et c'est une proportion qu'on voit assez régulièrement dans ce type de transporteurs.
Voilà, pour nos amis outre-Quiévrain, 75, c'est 75. Christine Revaud-Dallon, bonne foi. Donc, pour vous, ça, c'est un point... Donc, c'est interdit, c'est un point de blocage. Là, il faut lutter contre ça,
oui,
contre
ces abus-là. Oui, pour lutter, vous avez parlé de l'agence européenne qui n'est pas encore créée. Hein. C'est une demande que nous avons faite et nous l'avons votée au Parlement européen. Mais il y a encore beaucoup de freins à la mise en place. Ce ne serait pas 50 personnes qui irait regarder ce qui se passe dans les 28 ou 27 États de l'Union européenne. En revanche, ça permettrait d'harmoniser, d'arbitrer et sanctionner ce qui se passe dans chaque État membre avec les inspecteurs du travail. Dès lors que les inspecteurs du travail sont en nombre, et on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'États où ils ne le font pas, mais il faut qu'il y ait cette agence pour pouvoir vérifier, contrôler, coordonner. C'est ça son rôle. C'est pas d'être présent partout sur le terrain, ce serait absolument impensable. Mais il faut mettre des sanctions, parce qu'aujourd'hui, on ne les met pas. On connaît la situation, on les prend en flagrant délit en permanence, mais les sanctions ne sont pas posées.
L'histoire du SMIC, est-ce que ça, donc les Polonais s'y sont opposés avec d'autres pays, mais est-ce que ça, Jean-Sébastien, c'est quand même la solution, c'est une solution ?
Alors c'est une solution qui est souhaitée et mise en avant par la France et par l'Allemagne. Après, de ce qu'on entend à la Commission européenne, c'est pas forcément cette façon qui voudrait y arriver. Parce que c'est vrai que ça met des obligations administratives assez compliquées. Pour un camion qui traverse toute l'Europe, il va falloir qu'il se déclare à chaque fois, donc qu'il calcule combien de temps il a passé en Allemagne, donc combien de temps il faut qu'il soit payé au SMIC allemand, combien de temps au SMIC belge. Une fois qu'on traverse le Luxembourg...
Ça va complètement à l'encontre du principe de libre circulation.
Ça l'entrave beaucoup. Et à la base, le rôle de la Commission est de faire en sorte qu'il y ait le moins d'entraves possible à la liberté de circulation et de d'échange. Et donc du coup, là, elle est un petit peu coincée, parce que la Commission, en même temps, veut pas déplaire trop aux pays de l'Est, sachant qu'elle est déjà en conflit avec eux sur les travailleurs détachés. Et en même temps, elle sait que les demandes des pays de l'Ouest sont valables. Et dans le contexte électoral qu'on connaît aussi bien en France, en Allemagne ou aux Pays-Bas, elle sait que c'est un sujet important et que si elle ne fait rien, elle sera attaquée là-dessus dans les campagnes électorales.
Sachant que là, on parle des poids lourds, mais il y a également d'autres techniques pour contourner les règles actuelles. C'est d'utiliser des camionnettes ou des camions inférieurs à 3,5 tonnes. On va en discuter parce que c'est une question assez étonnante. Hein. Ce transport routier, comment mettre fin au dumping social avec Christine Revaud-Dallon, bonne foi, Charles de Marseille, Jean-Sébastien Lefebvre, Emmanuel Foulon. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Depuis le Parlement européen à Bruxelles, où avec nos invités Christine Revaud-Allonne, Bonnefoy, chef de file des eurodéputés socialistes français, Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman, Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte, Emmanuel Foulon, conseiller politique belge auprès du Parti socialiste, nous discutons du transport routier. Comment mettre fin au dumping? Comment mettre fin à cette concurrence déloyale? On rappelle ce chiffre, un conducteur routier bulgare, eh bien, il coûte à son employeur 300 euros par mois, alors qu'un chauffeur routier français, il coûte à son employeur, enfin non, son revenu à lui brut, c'est 3300 euros. D'ailleurs, Christine Revaud-Allonne, Bonnefoy, le problème, ce sont les chauffeurs routiers, est-ce que ce sont des indépendants, des pigistes, des freelances, entre guillemets, ou est-ce que ce sont les entreprises le problème? Est-ce que ce sont des entreprises bulgares, roumaines, de manière générale de l'Est, ou est-ce que ce sont aussi des entreprises françaises
parfois, qui ce sont des
profitent
entreprises
des réglementations absolument. Et des conditions sociales dans les pays de l'Est? Le problème, il vient d'où?
Le problème, il vient de l'absence de cette harmonisation. Et,
d'accord.
Et la réalité, c'est que oui, il y a des entreprises qui peuvent être françaises, qui peuvent être allemandes, qui peuvent être belges, qui ont des adresses, des boîtes aux lettres, comme on dit, dans des pays où le niveau de salaire est bien inférieur. Et ça leur permet de recruter des personnes dans ces pays-là et de considérer que c'est une entreprise bulgare, hongroise, roumaine, etc. Et de pouvoir payer moins cher les chauffeurs qui font le même trajet. Et comme il n'y a pas de règles fixes sur les temps de repos de ces conducteurs, même s'ils viennent faire en réalité du transport routier en France, ils sont complètement libres de le faire dès lors qu'on ne fait pas, on ne met pas en place les sanctions appropriées.
Charles de Marcy.
C'est dans ce contexte-là qu'une agence a du sens. Parce que, on se doute bien que les autorités polonaises ou des autres pays de l'Est sont pas très regardantes. Ils vont bénéficier quelque part aussi de ce système-là parce que ça emploie différents de leurs ressortissants. Et donc, si l'autorité française ou belge ou allemande ou ce que vous voulez demande des informations, on peut se douter qu'il va y avoir un petit peu de temps. Et si votre procédure, elle prend 6, 7, 8 mois, vous avez 10 fois le temps de pouvoir supprimer, liquider votre société. Les gens sont rembauchés sous un autre système ailleurs et ça répond pas beaucoup aux différentes thèses. Donc, le fait d'avoir cette agence pourrait en fait centraliser et faciliter et éviter d'avoir ces bisbilles en fait entre deux États qui, in fine, ne rendent pas service ni au système de l'État d'accueil ni de l'État émetteur.
Donc, pour simplifier la mise en œuvre de la réglementation européenne par les opérateurs et arriver à un bon résultat, en gros, il faut une agence. Jean-Sébastien Lefebvre, pour vous, ça c'est
un des éléments de réponse.
C'est un des éléments de réponse. Ça pourrait fluidifier. C'est comme on a fait pour Schengen. Il faut gérer les frontières extérieures.
Donc
on a créé
Frontex.
Une agence, Frontex, qui c'est pas elle qui contrôle
on
directement.
On a mis à Varsovie une agence avec en gros 50 agents pour.
Avant 50, maintenant beaucoup plus.
Non,
depuis
mais au départ.
La crise migratoire.
Mais c'est bien ce que disait Charles de Marcy, c'est-à-dire qu'au départ, on se retrouve avec une agence qui est chargée de surveiller les frontières extérieures de l'Union européenne et qui est basée à Varsovie. Et ils ont très peu de moyens. Ouais. Et donc, du coup, après, on crée...
Oui, mais là, l'agence sur les transporteurs, si j'ai bien compris, l'idée, ce ne serait pas que les bonhommes se baladent partout en Europe pour contrôler. Non. Ça resterait les autorités nationales et coordonnerait d'un point de vue administratif.
C'est comme l'agence ferroviaire européenne.
Mais apparemment, toutes les autorités nationales ne font pas le job. C'est ce que vous disiez, Christine Revaud-Allonne,
Bonnefoy. Non, elles ne le font pas. Et comme il n'y a pas d'harmonisation et de dispositif de sanctions au niveau européen, pour l'instant, c'est on fait comme on veut.
Mais c'est un peu comme le même principe que quand... Bon, maintenant, ça fonctionne un peu mieux, mais à l'époque, si vous faisiez un excès de vitesse dans un autre pays européen, vous ne receviez pas le PV
c'était
chez
l'impunité.
Vous. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, il y a eu un règlement ou une directive il y a quelques années qui fait que maintenant, si vous êtes flashé en Allemagne, ça arrive jusqu'à chez vous dans la Corrèze ou dans le Maine-et-Loire. Mais finalement, c'est le même problème pour les travailleurs détachés ou pour le cas des chauffeurs routiers. Si quelque chose est vu en France, il faut que quelque chose se passe aussi en Pologne, en Bulgarie ou autre, pour qu'on aille au bout de la démarche, de la sanction. Et effectivement, on pourrait se dire, une agence, ça pourrait permettre de faire avancer plus rapidement les dossiers et de réellement sanctionner, mais... Est-ce que les administrations nationales vont jouer le jeu jusqu'au bout? C'est un peu la question.
Ouais, si on a un peu l'impression. Mais une fois qu'on a l'agence, elle contrôle les poids lourds, Mais
non, elle
contrôle les poids lourds, les chauffeurs et les entreprises.
D'accord, mais si les entreprises disent bon, il y a une réglementation sociale trop compliquée pour les poids lourds, du coup on a recours à des camionnettes et là ils sont pas astreints à la réglementation sur le temps de conduite et du repos.
C'est pour ça qu'il faut intégrer aussi ces camionnettes. Et quand on avait fait la résolution du Parlement européen sur la lutte contre le dumping social, notre parti transport, on demandait cette agence européenne des transports routiers et on indiquait qu'il fallait intégrer ces petites camionnettes qui font réellement du transport routier mais masquées puisque c'est sur un dispositif de poids qui normalement n'était pas considéré comme un poids lourd.
On rappelle que juste en France, c'est le transport routier de marchandises, c'est 600 000 emplois, c'est 40 000 entreprises. Emmanuel Foulon.
Oui, alors, pour rappeler aux téléspectateurs, il se passe des choses assez extraordinaires dans les parkings auprès des frontières. Donc, vous avez tous les...
Vous avez, oui.
Alors, j'ai évidemment parlé des camionneurs, je vous rassure.
Vous êtes venu avec des images.
Mais donc, vous avez des poids lourds qui arrivent dans la station de repos et qui déversent leur chargement pour les mettre dans des camionnettes petites. Et ce balai arrive tous les jours. Donc, c'est une manière de contourner pour l'instant la législation. Ça s'est passé de nouveau, quelque chose qui a été contrôlé aux frontières luxembourgo-belge il y a 2 ou 3 semaines, mais c'est quelque chose de très répandu de plus en plus justement pour pouvoir contourner la loi et c'est très 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 rentable pour ces entreprises. Mais j'entends parler beaucoup.
Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, c'est juste avec une harmonisation des règles au niveau européen, du coup, ce qui est possible avec un poids lourd dans un pays, et on ne pourra pas juste...
Alors évidemment, il y a plusieurs choses.
D'abord, des petites camionnettes pour traverser notre pays.
C'est qu'effectivement, il faut une harmonisation. Parce que j'entends parler beaucoup de libre circulation, mais il faut... Ok, mais ça doit se faire en tout cas de concert avec au moins la défense du droit des travailleurs. Parce que j'entends beaucoup parler de la libre circulation, mais très rarement du droit des travailleurs, et que celui-là, il habite dans l'Est ou dans l'Ouest, dans le sud ou dans le nord, peu importe. Ensuite, effectivement, la balle, elle est du niveau européen, bien sûr, pour ce qui est de l'harmonisation. Et enfin, il est aussi au gouvernement, parce qu'on parle des contrôles, mais une agence européenne sans la complicité positive des États membres pour faire les contrôles, ça ne marchera pas. Et c'est quelque chose qui est assez paradoxal. On vient ici toutes les semaines ou toutes les 2 semaines dans cette émission et systématiquement, on constate qu'il y a des problèmes avec les contrôles. Pour les routiers, on a parlé de ça pour l'étiquetage alimentaire, pour la traçabilité des biens. Et donc, si vous n'avez pas, on peut toujours dire c'est la faute à l'Europe, mais si vous n'avez pas la complicité et la bonne volonté des États membres pour fonctionner, ça n'ira jamais. Et la bisbille aussi, elle est due à... Finalement, pourquoi la France et l'Allemagne sont obligées de faire un revenu minimum, un salaire minimum? C'est parce que l'Europe n'arrive toujours pas à saisir cette balle au bon. Et c'est pour ça qu'ils doivent faire les frondeurs et le faire eux-mêmes. Alors, la Commission peut regretter ces initiatives allemandes et françaises. C'est vrai, mais ça part d'un bon principe.
On rappelle que l'initiative allemande ou française, c'est d'imposer aux routiers bulgares ou lituaniens qui passent par le territoire français ou allemand d'être payés au SMIC. Ça pose aussi d'autres problèmes. Je ne veux pas parler d'effets secondaires, mais si on n'a pas le même temps de repos d'un pays à l'autre, ça pose des problèmes de sécurité routière, par exemple, Christine Renaud-Dallon-Bonnefoy.
S'il n'y a pas de contrôle, si ce sont des chauffeurs qui ont un temps de travail bien plus important que le temps qui est encadré en France ou dans d'autres pays, et donc pas de repos, obligation de dormir dans le camion, impossibilité de rentrer chez soi pour avoir des temps de week-end. Ça n'existe pas. Quand ils partent, généralement, c'est pour plusieurs mois d'affilée. Ça provoque forcément du stress qui aboutit généralement à l'utilisation de produits stupéfiants, manque de sommeil et beaucoup d'accidents de la route. Et on le voit régulièrement, malheureusement, sur les chaînes d'information.
Et c'est ce qu'on se retrouve avec, finalement, ces bombes sur nos autoroutes.
Alors après, la Commission européenne a prévu de présenter prochainement un socle de droits sociaux en Europe, etc. Mais encore une fois, elle n'a pas de prise directe sur elle peut pas décider de loi sociale ou autre. Il faut vraiment que tous les États membres soient d'accord et qu'ils décident d'harmoniser. C'est-à-dire qu'il faudrait que les Polonais d'eux-mêmes disent ok, on va aller vers quelque chose plus proche des Français. Les Français devront peut-être faire des concessions sur autre chose. Donc du coup, c'est quand même un sujet extrêmement compliqué parce qu'il n'y a pas de compétence, on va dire régalienne entre guillemets, de la Commission sur la question de l'harmonisation.
Mais les Polonais, par exemple, ça fait partie de leur stratégie. Ils sont dans une logique de dumping.
Indirectement,
oui. Est-ce qu'ils se sont dit en rentrant dans l'Union européenne, formidable, on va pouvoir faire du dumping?
Je pense pas que c'était l'idée première du gouvernement
c'est
de l'époque
l'idée que beaucoup
de se dire
Français
on va
ont.
Faire.
Non,
faire
c'est pour business, ça que je pose la question. Business. On va faire du business faire sur du le business. Dos des autres parce que nous on est moins cher. Ben, donc forcément, on va rappeler tous les contrats.
C'est leur avantage comparatif.
C'est un avantage comparatif.
Oui. Ils le savent et ils vont protéger aussi cet avantage comparatif tant qu'ils ne seront pas contraints par d'autres éléments.
Et ils sont en train de le perdre.
Bah, on va dire que le niveau de vie a augmenté en Pologne, donc je pense que le travailleur polonais est plus cher qu'en 2004, ça c'est indéniable. Mais en même temps, je veux dire, l'ouverture, l'adhésion à l'Union européenne a aussi fait perdre à la Pologne 1 million de personnes qui sont parties travailler à l'Ouest. Et ça, c'était des gens éduqués que la Pologne a formés et qui ont été enrichir les caisses de retraite et les systèmes sociaux d'Europe de l'Ouest. Donc, ils ont des avantages, ils ont aussi des inconvénients. C'est-à-dire que, par contre, vous dire, je vais mettre mon usine en Pologne, ok, c'est moins cher, mais en même temps, le réseau routier est moins bon, quoique c'est en train de changer. Vous n'avez pas forcément les gens formés comme vous voulez ou autre. Donc il y a encore des inconvénients à aller à l'Est, on va dire. La Bulgarie, c'est le cas extrême. C'est-à-dire que oui, les infrastructures routières ne suivent pas. La population est en... Il y a de moins en moins de personnes en Bulgarie. Et en plus, vous avez le problème de la corruption. Donc il n'y a pas que des avantages d'être un pays d'Europe de l'Est.
Je posais la question à Christine Revaud-Allonne Bonnefoy en début d'émission, Charles de Massy. Je disais, est-ce que là, c'est vraiment ce dossier du dumping, de la concurrence déloyale dans le transport routier, est-ce que c'est le symbole de ce deux blocs qui s'affrontent, l'Est et l'Ouest? Moi, j'ai quand même le sentiment que c'est le cas.
Bah, c'est le symbole aussi d'un marché intérieur inachevé, puisque sur ces questions sociales, on ne va pas assez loin et qu'on entretient en fait cette concurrence intra-européenne et au détriment collectif. Donc oui, il va falloir travailler un peu plus dessus. C'est pas forcément une compétence européenne, c'est encore dans la main des différents États membres. Et puis chacun regarde par rapport à sa propre population, à son marché du travail, là où il est compétitif. Et donc c'est assez logique aussi que ces États continuent de soutenir ce système tant qu'il n'y en aura pas un qui sera plus pauvres, plus compétitifs et qui vont prendre ces marchés-là c'est ou ça, qui vont gagner sur un autre. Qu'est-ce qu'on leur apporte en contrepartie quelque part pour développer sur ces travailleurs qui sont peu qualifiés
déjà. Il faut un pouvoir supranational, c'est évident, parce que justement,
le pilier social,
les Polonais n'ont pas d'intérêt, les Polonais n'ont aucun intérêt, enfin, se complaisent dans la situation, c'est évident. Et c'est normal, et la France le ferait aussi, à partir du moment où ça peut servir les intérêts de ses ressortissants. Et donc là, par contre, il y a besoin d'une autorité européenne qui soit supranationale. Mais ça ne peut jamais se faire.
Et là, au mois de mai, a priori, la Commission européenne devrait prendre position sur cette question du transport routier.
En tout cas, il y aura une proposition qui sera faite. Est-ce qu'elle sera bonne ?
Cécile Revaud-Allonne Bonnefoy.
Oui, elle va présenter ce qu'on appelle le paquet route, dans lequel il va y avoir un certain nombre de textes législatifs, notamment sur la question de la formation des chauffeurs, qui est très important, le code de conduite des chauffeurs, et il y a en même temps la révision de la directive des travailleurs détachés, sur laquelle on a une grosse bataille, parce que la Commission considère qu'il faudrait supprimer le transport routier du champ d'application de la directive des travailleurs détachés.
Et pourquoi ?
Eh bien, parce qu'ils considèrent que comme ils sont mobiles, ils ne peuvent pas être considérés comme des travailleurs détachés. Et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc ça fait partie des amendements.
Et proposer un statut particulier pour les...
Ils proposent, comme souvent dans le secteur des transports, de ne pas s'en occuper. C'est à part. Donc il ne peut pas y avoir de volet social concernant le transport. C'est un vrai sujet et c'est très important de le mener jusqu'au bout.
Et là, le Parlement est convaincu qu'il faut que ça fasse partie et que ça relève du texte sur les travailleurs détachés.
Et là, on fait de la politique et donc il y a des députés qui veulent absolument que les transports soient dans cette directive et ceux qui considèrent que ce serait vraiment bien si ça sortait. Et vous retrouvez votre géographie Est-Ouest, mais je vous rappelle aussi le sud.
Bon, Christine Revaud-Allonne Bonnefoy est avec nous, ainsi que Charles de Marcy, Jean-Sébastien Lefebvre et Emmanuel Foulon. On marque une pause et on se retrouve avec Éric Scholl de Courrier International pour la revue de presse. Il va nous emmener au Royaume-Uni, en Hongrie, en Italie et en Belgique. A tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver ici à Bruxelles pour la deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens en compagnie de Christine Revaud-Allonne Bonnefoy, eurodéputée socialiste, Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman, Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte et Emmanuel Foulon, conseiller politique belge auprès du Parti Socialiste. Il nous rejoint comme chaque semaine par téléphone en ligne de sa rédaction qu'il dirige d'une main de fer, le Courrier International. Bonjour Éric Scholl.
Bonjour Yann Anthony.
Comment allez-vous ?
Mais excellemment bien.
Bon, vous lisez combien d'articles par semaine, juste par curiosité ?
Oh, je crois des dizaines. Je suis incapable de calculer. Le jour, la nuit, un peu tout le temps.
D'accord. Et lesquels avez-vous sélectionné cette semaine pour nous? Est-ce que vous nous avez, où allez-vous nous faire voyager?
Alors, je vous propose de commencer par Londres. On ira en Hongrie. On se déplacera en Italie, vous verrez, sur un vrai débat. Et puis, on finira à Bruxelles, en Belgique.
D'accord, en Italie, où il y a un vrai débat. On parle beaucoup en Italie, mais parfois, il y a aussi des vrais débats. Mes amis italiens qui écoutent souriront. Demandez le programme de 500 millions d'Européens à la revue de presse.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Alors Eric, vu du Royaume-Uni, la France peut-elle freiner la vague populiste? C'est la question que les grands Bretons se posent.
C'est même une question en fait que se pose pratiquement toute la presse européenne. Et ce qui est intéressant, c'est que le Financial Times produit un article qui va un peu à l'encontre de ce qu'on peut lire ailleurs, parce que cet article est relativement positif. Et alors bien sûr, le Financial Times nous explique qu'il semblerait que toutes les histoires politiques finissent mal, hein, allusion évidemment au Brexit, à Donald Trump, et il ne sous-estime pas les possibilités d'une victoire de Marine Le Pen, en montrant ce que ça pourrait signifier, abandon de l'euro, réduction drastique de l'immigration, priorité nationale, crainte donc d'un Frexit. Et pourtant, nous dit le Financial Times avec un ton presque lyrique, pourtant quelque chose a changé à Paris, des rayons de soleil semblent poindre à travers les nuages. Alors, on a parfois évidemment un peu de mal à trouver ces rayons de soleil, mais pourquoi pas? Parce qu'en fait, selon le Financial Times, Marine Le Pen n'a pas forcément réussi son pari, les attentats n'ont pas provoqué le tournant définitif vers l'islamophobie qu'espérait le Front National, explique le journal, et le nationalisme menaçant de Trump a contribué à rappeler que les intérêts de la France dépendent d'une Union européenne unie. Voilà des raisons pour lesquelles, nous dit le Financial Times, il y a des raisons finalement d'espérer.
Eric, quand vous avez parlé de rayons de soleil, j'ai surtout pu constater des moues dubitatives ici sur le plateau. Hein. Enfin, remarquez, on est ici à Bruxelles, on n'est pas trop habitué aux rayons de soleil. Jean-Sébastien Lefebvre.
Mais Yann-Anthony, c'est pour ça que le Financial Times nous dit bien, la France pourrait tous nous surprendre, voire se surprendre elle-même.
Oui. Jean-Sébastien Lefebvre, est-ce que vous seriez le premier surpris?
Oui, en même temps, les sondages disent que Marine Le Pen arriverait en tête plus ou moins au premier tour, mais dans tous les cas serait battue au deuxième. Donc, elle serait pas élue, mais en même temps, elle ferait une performance, on va dire, jamais vue en termes de réussite. Et la question est de voir peut-être la dynamique sur le long terme et aussi la dynamique autour. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est le 15 mars prochain, c'est les Néerlandais qui votent et l'allié de Marine Le Pen au Parlement européen, Geert Wilders, est lui aussi en tête dans les sondages. Donc c'est pas le même système qu'en France, c'est un vrai régime parlementaire avec une proportionnelle, donc il pourra pas gouverner s'il gagne, mais il serait en position éventuellement de faire une coalition si les autres partis le suivent. Et on verra s'ils le feront. Pour l'instant, ils disent que non, mais nécessité fait loi.
Quand on regarde la presse étrangère, surtout anglo-saxonne, je pense que de très loin, la personnalité politique, alors peut-être François Fillon ces derniers temps, mais la personnalité politique la plus couverte, c'est Marine Le Pen. Donc vu de l'étranger, j'ai le sentiment, Eric, que c'est pour ça qu'on pense beaucoup à Marine Le Pen. À votre avis, Emmanuel Foulon, la France peut-elle freiner la vague populiste?
La France, mais pas seulement la France, je crois en tout cas qu'il y a une profonde remise en question, et surtout ne pas se dire ça va bien se passer. C'est ce qu'on n'arrête pas de se dire à chaque élection dans chaque pays européen, et finalement c'est vrai, on s'en sort bien. Je pense à l'Autriche, on s'en est bien sorti, enfin nous en tout cas les démocrates, on s'en est bien sorti, parce que finalement à quelques milliers de voix près, le parti d'extrême droite n'est pas passé, mais il finira un moment où, à force de dire « ça n'y arrivera jamais », ça arrivera. Et donc, d'ailleurs, regardez, au premier tour...
J'entends des analyses qui disent « autant que ça arrive, parce que de toute façon, ça paraît inéluctable, et comme ça, les gens se rendront compte que ça ne marche pas, et au moins, on pourra passer à autre chose ».
Ce serait quand même triste qu'il faille se casser une jambe pour se rendre compte à quel point c'est agréable d'avoir les deux. Je pense qu'il y a moyen de se remettre en question avant de se casser une jambe pour se rendre compte de ça. Et d'ailleurs, regardez qui sont en tête des sondages pour l'instant en France, c'est Le Pen d'une part et Macron d'autre part. Donc c'est deux personnes, on va pas dire anti-système, parce que Macron ne peut pas vraiment dire que c'est anti-système, mais en tout cas en dehors de l'appareil politique. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut se poser des questions par rapport aux partis traditionnels.
Christine Revaud-Allonne, bonne foi.
Oui, on ne joue pas avec la démocratie, et j'ose espérer que les électeurs français ne vont pas se dire « allez, on va faire un vote pour voir ». L'enjeu est bien trop grave. Après, sur les sondages...
Ce que se disent beaucoup de Français, je pense, c'est qu'il faut que les choses changent et autant donner un bon coup de pied dans la fourmilière.
Mais il faut que les
c'est
choses...
une des explications du vote Front National.
Il faut que les choses changent comment ? Parce que dire « je veux que ça change » sans l'expliciter, quand on... il faut aussi regarder ce qu'elle propose. C'est très... très angoissant, moi, je trouve. C'est, vous avez une page de propositions qui sont très sociales, à la limite de la caricature, et l'autre page très nationaliste fasciste. Vous me faites le mélange des deux et c'est le programme de Marine Le Pen. Est-ce que c'est vraiment ce que les électeurs français veulent ? Je ne le crois pas. En revanche, ce qui est certain, c'est que on parle tellement d'elle tout le temps et elle arrive à passer comme j'entendais ce matin une chronique à la radio, et ça, c'est tout à fait ça. C'est comme le téflon, ça passe. C'est-à-dire qu'il y a des affaires de corruption qui sont là sur la table. Elles atteignent certains candidats considérés comme en capacité de gouverner. Et ça passe sur Marine Le Pen sans aucun problème et elle continue sa voie. C'est très inquiétant et il faut regarder les autres propositions.
Et là, c'est un problème. Parce que quoi qu'ils disent, finalement, on a le sentiment qu'on pourra leur donner leur chance et qu'on verra. Et on l'a vu dans cette émission, on a reçu plusieurs fois des représentants du Front National qui, sur le fond, n'ont pas réussi à convaincre. Alors la forme, il y a un peu de choses habituelles et qui en rajoutaient. Et sur le fond, ils ne réussissaient pas à convaincre. Mais même ils le disaient, c'est pas très grave parce
mais
qu'on verra après.
À convaincre qui ? À vous convaincre vous ?
Oui, à nous, même
en
de
revanche,
l'autre côté.
Leur base, sur leur le base fond, électorale.
Sur le fond, pas tant que ça. Regardez ce qui s'est passé avec l'histoire des assistants parlementaires. C'est oui, c'est moins grave parce que c'est eux et qu'on verra plus tard. On voit qu'il y a un deux poids, deux mesures, parce qu'ils sont encore, finalement, assez vierges au niveau de ces différentes fonctions et ces postes à responsabilité. Et c'est là où c'est dangereux. Parce que, à force de jouer avec le feu, bah, on se brûle. Le problème, c'est que pour les partis traditionnels, dire juste, attention, on va se brûler avec les autres, ça suffit pas. Et il faut aussi convaincre sur un programme, sur quelque chose, sur du fond, de voilà comment, oui, il y a des choses qui doivent changer, d'autres qui sont bien, qui sont stables, et d'avoir une vision qui soit positive. Et pas seulement de non, votez pas pour les autres, ils sont trop méchants et trop mauvais.
Direction,
et ça, on voit que sur cette étape-là, bah, ça passe plus.
Direction à présent la Hongrie avec vous, Eric, où là, pour le coup, avec Viktor Orban, ils ont mis un vrai populiste à la tête du pays.
Oui, c'est pour ça que c'est très intéressant d'aller voir ce qui se passe dans les salles de cinéma. Et en particulier, il y a un film qui est extrêmement commenté, un film hongrois, qui est très commenté en ce moment en Hongrie. C'est le film Le Citoyen, du réalisateur Roland Vranik. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il met en scène le parcours du combattant d'un réfugié africain qui essaye d'obtenir la nationalité hongroise. Et évidemment, ça nous renvoie à tout ce débat qu'il y a en ce moment sur les réfugiés. Et c'est d'autant plus intéressant que pour incarner ce rôle, eh bien, le réalisateur a fait appel à Marcelo Kakebali, qui n'est pas un acteur et qui est un conducteur de tram à Budapest, et donc c'est un petit peu l'histoire. Ce monsieur a débarqué en 1976 à Budapest, il est arrivé de Guinée-Bissau, il est devenu officiellement hongrois en 1995 après une très longue bataille administrative. Alors le film, c'est pas tout à fait son histoire, mais c'est exactement ce parcours du combattant, et le site d'information 24 heures est allé interviewer l'acteur, et qui nous explique que la question migratoire divise plus que jamais la société européenne. Et le référendum anti-réfugiés, hein, voulu par le gouvernement Orban, a accentué évidemment cette discorde. C'est intéressant de voir que le cinéma peut aussi traiter ce type de sujet.
D'accord. J'imagine que vous n'avez pas la réponse, mais je ne sais pas s'il fait beaucoup d'entrées en Hongrie.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est très commenté. C'est sans doute le film le plus commenté depuis sa sortie fin janvier.
D'accord. Jean-Sébastien Lefebvre.
Mais en fait, derrière la question migratoire que peut aborder Sim, c'est aussi la question de l'identité hongroise ou même européenne. C'est-à-dire que pour un Français, se dire qu'un Français peut être noir, il n'y a pas de débat. Un Français peut être noir, voilà. Pour un Hongrois, se dire, peut-on être Hongrois et noir ? Peut-on aussi être Polonais et noir ? La question n'est pas résolue. Il n'y a pas dans ces pays-là cette idée forcément d'une nationalité ouverte. Donc la crise migratoire qui est passée par la Hongrie en partie, mettez les Hongrois face à cette question. En Hongrie, vous avez des gens qui sont nationalité, on va dire, de citoyenneté hongroise, mais de nationalité, on va dire, ethnique slovaque. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme minorité nationale. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette partie de l'Europe n'a pas la même vision de la citoyenneté que nous, en Europe de l'Ouest. On va encore caricaturer, mais c'est ça. Et donc du coup, il y a très longtemps, moi j'avais écrit un article qui s'appelait « Peut-on être noir et polonais ?» Et en Pologne, vous avez un député qui est noir, et c'est vraiment l'exception. C'est pareil, c'est un monsieur qui est arrivé d'Afrique à l'époque du communisme, et qui est resté, a épousé une Polonaise, et est devenu polonais, mais ça a été le parcours du combattant. Donc c'est vraiment une problématique assez large dans ces pays par rapport à leur ouverture. Et maintenant, ils deviennent attrayants. Donc, des gens veulent venir chez eux.
Alors, en France, on n'est pas encore au niveau des États-Unis, hein, où c'est pas non plus les conseils d'administration des entreprises ou bien les gouvernements sont pas aussi colorés que l'ensemble de la société.
On est encore beaucoup plus loin en Hongrie. Je veux dire, c'est des années-lumière, ça n'a rien à voir.
Et dans un terreau très
toujours dans la logique est-ouest.
Voilà.
Direction l'Italie. En sortant de l'euro, l'Italie économiserait 8 milliards d'euros, Eric.
Et je vous avais promis un débat, et je peux vous dire qu'il est très vif depuis que Il Giornale a sorti cette étude, une étude qui a été réalisée quand même par Mediobanca, une étude qui était, nous explique le journal, une étude délicate, hein, qui était hyper confidentielle et qui n'était en tout cas pas destinée à paraître immédiatement dans la presse. Eh bien si, elle est parue largement dans ce journal Il Giornale, et elle met en avant les avantages d'une sortie de la monnaie unique. On arrive en résumé à ce chiffre, l'Italie économiserait 8 milliards d'euros. C'est extrêmement détaillé et au fond, il y a quelques analyses qui sont intéressantes et même des comparaisons. L'étude nous explique que l'Italie a un différentiel de productivité de 20% avec l'Allemagne et la France. Et une situation, nous dit l'auteur, une situation absurde qui reviendrait à faire la course contre Usain Bolt avec des béquilles. Au final, ce scénario envisagé par Mediobanca montre à quel point quand même il y a, comment dire, une sorte de, non pas d'excitation, mais en tout cas de tension et de questions qui paraissaient jusqu'à présent interdites. Ce débat sorti, cette étude sortie dans Il Giornale a fait beaucoup réagir. Immédiatement après, d'autres journaux, en particulier Il Foglio, a répondu, notamment en donnant la plume à des économistes pour expliquer que ce n'était pas possible, que c'était honteux de d'écrire de tel type d'études. Et puis, et je vous dis parce que la réponse d'Il Foglio est intéressante, l'économiste nous explique, d'après vous, vu le climat politique actuel en Italie, est-ce que le passage à la pizza à la gadou, le passage à la pizza à la gadou serait-il accueilli par les cris de joie des épargnants ou alors par des chuchotements embarrassés à travers le monde?
Bon, la pizza à la gadou. Charles de Marcy, je suis sûr qu'il battrait Usain Bolt même avec des béquilles.
En marche arrière.
Qu'est-ce que vous en pensez?
La conclusion est une très belle conclusion. Est-ce que les épargnants italiens voudraient revenir à la lire italienne? Je suis pas convaincu qu'il y en ait beaucoup qui voudraient transformer leur livret d'épargne en euros, en monnaie nationale. Alors peut-être les Allemands, parce que c'est une monnaie forte. Mais sur d'autres, les Grecs n'ont pas voulu aller sur cette direction-là. Donc on peut faire toutes les études qu'on veut, mais d'un point de vue très pratique, à la fin, c'est ce que vous avez dans votre porte-monnaie et qu'est-ce qu'on pourrait transformer si on revenait à la monnaie antérieure.
Christine Revaud-Dallone, bonne foi.
Moi, je regarde pas derrière, je préfère regarder devant et je pense que dans la campagne présidentielle en France, il va falloir qu'on parle tous d'Europe et en tout cas nous, notre candidat Benoît Hamon, en parle et fait des propositions de protection et positive. Nous, le vote qu'on va avoir à Strasbourg la semaine prochaine, c'est un vote important sur la mise en place de la gouvernance de la zone euro. Le premier acte, le rapport Berès-Bug. Et ça, c'est l'avenir. L'avenir fait en sorte qu'on ait une réelle gouvernance à ce niveau-là et qu'on ait une capacité budgétaire au niveau de la zone euro pour démontrer aux Européens qu'on va enfin pouvoir faire beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui et ne pas être toujours bloqué par les États membres. Donc regardons devant et arrêtons de regarder les anciennes devises qu'il y avait au sein de l'Union.
Bon Eric, à présent direction la Belgique, enfin direction pour vous, nous on y est déjà un mois à la diète.
Oui, j'ai un peu envie de vous demander, est-ce que vous faites partie, Yann Anthony, des 125 000 personnes qui ont été séduites déjà par cette opération qui s'appelle Tournée Minérale. Et la Tournée Minérale, c'est une première et c'était montée par la Fondation Belge contre le cancer, qui incite tous les Belges à se mettre au régime sec, pas d'alcool pendant tout le mois de février. Ça a commencé depuis le 1er février et ça marche plutôt pas mal. C'est évidemment, on peut s'inscrire sur un site, on peut faire des dons, on peut aussi calculer sur ce site, et bien finalement, l'argent qu'on économise en ne buvant pas d'alcool et surtout pas de bière pendant tout le mois de février, et puis aussi calculer les calories non ingurgitées, puisque finalement, on est quand même à la diète. une bonne initiative.
Bon, une bonne initiative, ça c'est votre avis, c'est quoi cette histoire, Emmanuel
Foulon? Enfin, je veux dire, c'est excellent.
Mais enfin, un mois entier sans bière.
Non, mais c'est une très belle initiative, et d'ailleurs plusieurs députés européens nous ont rejoints. On a une équipe ici, Incorporé Sano, pour ceux qui veulent encore s'inscrire, parce qu'il n'y a pas de date limite, on peut toujours s'inscrire.
Ah, c'est vrai que par exemple Marc Tarabella, oui, eurodéputé socialiste belge,
fait partie des gens qui sont inscrits et
il arrive à tenir.
Oui, et il communique chaque semaine sur ça. Et il communique chaque semaine sur sa perte de poids, sur le nombre de bouteilles d'eau ingurgitées. Alors ça
donnerait quelque chose quand il arrêtera l'eau.
Ah, ben je ne sais pas si on fera un marathon de vin, mais ce sera intéressant. En tout cas, l'idée c'est sympa parce que c'est la Ligue contre le cancer qui propose cette initiative et ça permet de récolter les fonds.
Coup, évidemment,
il y a déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Je taquinais.
Et alors ça permet aussi une prise de conscience tout autour des habitudes. Alors, moi, par exemple, je ne vous cache pas que je ne suis pas un drogué d'alcool, mais c'est vrai que d'un point de vue social, quand on va quelque part, ce n'est pas dans mon réflexe d'aller demander une eau ou un soda. Donc c'est un vrai travail, une remise en question, et ça a des points très positifs pour la santé. Vous savez quand même que l'initiative qu'on aurait pu trouver un peu paradoxale, elle a quand même ménagé sans publicité, sans la moindre publicité, 125 000 Belges pour une population de 10 millions de personnes, c'est énorme. Donc ça veut dire que voilà, c'est pour une fois qu'il y a quelque chose positif de
enfin,
ça.
Les Belges, ils sont quand même malins parce qu'ils se disent un mois entier sans alcool et ils choisissent le mois de février, le plus court.
Ah, voilà.
Ça, c'est quand même, c'est là qu'on reconnaît les Belges. Merci Eric Scholl, patron de Courrier International. À la semaine prochaine. Merci encore pour cette revue de presse. Christine Revaud-Allonne, bonne foi, eurodéputée socialiste. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission. De même pour vous, Charles de Marcilly de la Fondation Robert Schuman, Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte, Emmanuel Foulon, conseiller politique socialiste belge. Merci également aux équipes du Parlement européen qui ont mis en image cette émission. Merci à Alexandre Rougier et Hélène Leroux qui l'ont préparée. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. À la semaine prochaine.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.